La colère des enseignants ne faiblit pas.
Mobilisation aussi du côté des étudiants.
Au final, qui est-ce qu'on attaque? C'est les élèves.
Je suis pas d'accord.
La première.
J'ai besoin de repères.
L'idée, c'est justement de pouvoir faire front avec les enseignants.
Les clés.
Non à la réforme de l'enseignement.
Arnaud Reussen.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés pour un finalement quatrième épisode de notre série consacrée à l'enseignement. On était parti sur un triptyque, mais on s'est dit qu'il manquait un maillon à notre chaîne. On a d'abord entendu les profs dans la longueur, des profs de terrain pendant deux épisodes, et puis on a entendu la ministre durant 45 minutes où elle est venue expliquer les modalités de sa réforme. Mais entre la ministre, le gouvernement d'un côté et les profs de l'autre, on avait un peu l'impression d'un dialogue de sourds, de deux lectures différentes de la réalité. Alors on s'est dit qu'il manquait un décryptage journalistique des enjeux, et c'est ce qu'on vous propose dans ce quatrième épisode.
La première, les clés.
Pour ceux qui s'en souviennent, les chants sont les mêmes que lors des grandes grèves de 1996. Seul le nom de la ministre a changé. C'était Laurette Onkelinx, PS, à l'époque. C'est Valérie Glatini, MR, aujourd'hui. Et sur le fond, les griefs des enseignants vis-à-vis des choix politiques posés n'ont pas tellement changé non plus en 30 ans.
Je dirais que c'est de manière générale un mépris, ça il faut le comprendre, c'est le gros mépris qu'il y a pour toute l'école. Le fait qu'on enlève de plus en plus de financement dans les écoles, ça, ce n'est pas que de maintenant. Aujourd'hui, c'est la goutte qui fait déborder le vase, mais en fait, ça dure déjà depuis 40, 50 ans.
Si vous avez écouté nos trois émissions précédentes, vous avez sans doute constaté que l'on assistait à une sorte de dialogue de sourds. D'un côté, des profs qui ne comprennent pas comment l'école peut être une variable d'ajustement budgétaire.
Quand on s'attaque à l'école, on s'attaque à la société, on s'attaque à son avenir, on s'attaque à chacun et chacune d'entre nous. Et moi, je ne suis pas dans la rue contre mes élèves. Je suis dans la rue pour l'avenir de mes élèves et l'avenir de cette société auquel je crois et auquel je veux continuer à croire.
On est en train ici de briser les fondements de l'école publique. L'émancipation pour toutes et tous par le savoir, et c'est à cela qu'on touche. Et quand on touche aux idéaux, eh bien, on brise quand même les ailes. Et c'est ça qu'on essaye aussi de défendre.
Pour de nombreux enseignants aujourd'hui, on vient parler d'économie alors qu'ils estiment que l'école est déjà sous pression, est déjà sous-financée et que leur métier est devenu de plus en plus difficile ces dernières années.
Je suis extrêmement fatiguée, mais c'est physique. Je dépense une énergie folle en classe et je trouve que sur ces cinq dernières années, le métier s'est vraiment très complexifié. On ressent beaucoup plus de fatigue physique aussi. Et là, avec les mesures qui arrivent, je ne vois pas comment on va pouvoir correctement accompagner les élèves.
Face à cela, le gouvernement et maire engagé oppose, lui, une réalité budgétaire, la dette abyssale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la nécessité de faire des économies, précisément, dit Valérie Glatini, la ministre de l'Éducation, pour assurer la pérennité de l'école publique.
Simplement, on a une réalité budgétaire qui est extrêmement sérieuse, vous la connaissez, et ce qu'on ne veut pas, c'est arriver à une situation où en 2029-2030, donc d'ici très peu de temps, nous ne sommes plus en capacité de payer les salaires des enseignants comme le reste des fonctionnaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple. Donc nous voulons avant tout maîtriser notre trajectoire budgétaire pour, à terme, réinvestir dans l'école. Et c'est ça qu'on veut faire.
Et même, sur la lecture des conséquences concrètes des mesures décidées par le gouvernement, il y a un monde entre les enseignants et leurs ministres. Beaucoup de profs estiment par exemple que les 2 heures à prester en plus par les profs du secondaire supérieur vont entraîner une situation ingérable et risquent de dégoûter beaucoup de jeunes profs, comme Sylvain, de l'enseignement.
Très peu de chance que j'ai 2 heures dans mon école, donc j'en aurai probablement 0. Et donc oui, ce serait aller frapper à la porte d'autres écoles, voir où il y a des remplacements ponctuels, 4 heures par-ci, 4 heures par-là. Faire 3-4 écoles différentes sur ma semaine, en espérant bricoler pour avoir à peu près un temps plein. Peut-être pour 3 mois, peut-être que les 3 mois après, vu que la personne sera rentrée, j'aurai un 3/4 temps, et puis je serai de retour à temps plein, et puis je perdrai quelques heures. Mais en fait, qui voudrait d'une vie comme ça aussi ?
Mais voilà, de son côté, la ministre, elle, estime que le problème est très exagéré et que beaucoup de profs, comme Sylvain, vont rapidement retrouver de l'embauche, le plus souvent d'ailleurs dans l'école où ils sont déjà, vu le contexte de pénurie.
La plupart des enseignants vont retrouver des heures dans le degré secondaire supérieur. Si ce n'était pas le cas, il y a énormément de charges qui s'ouvrent dans le degré secondaire inférieur. Parce qu'aucun nouveau diplômé n'arrive en raison du fait que la formation passe de 3 années à 4 années. Et donc on sait qu'à la rentrée prochaine, il n'y a pratiquement aucun nouveau diplômé à part les bisseurs qui arrivent sur le marché. Et donc là, il y aura beaucoup d'heures à pourvoir.
Bref, si la ministre ne nie pas qu'il y aura un point de tension à la rentrée, en particulier pour les profs temporaires, d'où des mesures d'ailleurs pour tenter d'atténuer le choc, sa lecture est très différente du chaos qu'entrevoient les profs et une bonne partie des directeurs. Alors, est-ce le monde enseignant qui exagère sur les enjeux, sur les conséquences, ou bien est-ce le gouvernement qui les minimise ? On va tenter d'y voir clair.
Et notre éducation, ça fait marcher dessus.
Et avec nous pour cela, 2 journalistes. Éric Burgraff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste enseignement au journal Le Soir. Et avec nous aussi Bertrand Haine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes-vous spécialiste politique à la RTBF, éditorialiste de Matin Première. Alors tous les deux, je pense, vous avez écouté nos 3 premiers épisodes de cette série. Est-ce que vous avez eu, Bertrand Haine, vous aussi, cette impression un peu de 2 mondes qui ne parlent presque pas la même langue, d'un fossé entre le gouvernement et les enseignants ? Dans les mots choisis, dans le discours, dans la lecture de la réalité.
Oui, c'était flagrant. Et je dirais que c'est même pas seulement la lecture de la réalité, c'est 2 réalités. La réalité du mur budgétaire est aussi incontestable que le malaise des enseignants. C'est 2 réalités différentes. Et le gouvernement s'attaque effectivement à une réalité budgétaire qui est incontestable. Je ne sais pas si Valérie Glatigny a raison de dire qu'en 2029, on ne sera plus payé. Ça, je n'oserais pas le dire, mais effectivement, ce n'est plus tenable. Et d'un autre côté, on l'a bien entendu dans votre podcast, mais dans aussi une série d'autres reportages et de rencontres avec les enseignants, il y a un trop-plein qui s'exprime à travers les mesures, la contestation des mesures d'économie, mais également d'autres réformes qui ont été décidées par le gouvernement. Et ça, en écoutant aussi votre émission, je me disais, et aussi une évolution de la société, une sorte de charge mentale, pas seulement des charges horaires ou des charges administratives dont ils se plaignent, mais aussi une évolution de la charge mentale avec notamment le fait que de plus en plus d'élèves utilisent des outils numériques, sont captés par les réseaux sociaux. Et bien pour les enseignants, c'est un regain de travail de parvenir à capter l'attention des enfants. Ça, c'est un vrai souci. Avec ces nombreux témoignages aussi, ça c'est lié au pacte d'excellence d'enseignants qui doivent faire face à un dyscalculique, un dysorthographique, un TDAH en classe, avec chaque fois des aménagements raisonnables. Ça veut dire, pour être concret, qu'une copie d'examen, il faut la transformer en Arial 14 pour tel élève qui ne sait pas lire les notes trop petites. Il faut carrément mettre des couleurs ou des photographies, etc. pour un autre. Vous voyez, c'est du travail en plus. Et c'est vrai que ces mesures d'économie, elles arrivent aussi à ce moment-là. Et donc, moi, j'avais vraiment l'impression de 2 réalités qui sont toutes les 2 justes, enfin, qui se basent toutes les 2 sur des éléments de réel qui sont incontestables, mais qui n'arrivent pas à se rencontrer. Et là, c'est à la fois une faiblesse du politique, qui n'arrive sans doute pas à parler, mais aussi des corps intermédiaires, syndicats, directions, CEGEC, enfin, tous ces acteurs de l'enseignement qui se sont parlé pendant plus de 10 ans sur le pacte d'excellence, mais qui semblent aussi avoir des difficultés à faire comprendre à la base, ou aux politiques, parce qu'ils sont entre les 2, de faire le lien entre les 2. On voit bien que ces organisations-là, elles sont en train de se retrouver un petit peu démunies aujourd'hui.
Et est-ce que ce qui se passe là maintenant, Éric Burgraff, c'est lié à l'actualité de ces mesures, à la question des deux heures sur laquelle on va revenir, qui a cristallisé sans doute beaucoup de choses, ou bien est-ce qu'on vit le produit de quelque chose de beaucoup plus long, qui a commencé bien avant ici cette législature, qui a peut-être même commencé bien avant le pacte d'excellence, dans ce fossé qui s'est creusé, et cette impression qu'on entend quand même aussi à la base, hein, quand on écoute les profs, que les politiques, le gouvernement ne comprendraient pas vraiment quels sont les enjeux pour eux à l'école.
Je confirme en tout cas que manifestement, on est face à deux mondes qui ne se comprennent pas, qui ne semblent pas parler la même langue. On voit par exemple que le monde politique a, me semble-t-il, une vision tout à fait théorique, en tout cas pour certains, de ce qu'est l'enseignement, de ce qu'est le travail en classe, de ce qu'est le travail en dehors de la classe. Et on voit aussi que le monde enseignant ne comprend pas toujours ou pas souvent les impératifs budgétaires, qui sont qu'un parien. Il faut peut-être juste les rappeler en 30 secondes. C'est la Fédération universelle, c'est 15 milliards de dettes, c'est 1,6 milliard de déficit annuel, c'est 350 millions de charges d'intérêt annuelles. Et personne ne sait comment on va sortir de ça, puisque la séquence actuelle permet juste de réduire le déficit annuel à 1,2 milliard et pas à 1,6. Ça veut dire que la dette totale va continuer à se creuser. Et parfois, j'ai l'impression que le monde enseignant ne comprend pas ça. Et d'autre côté, effectivement, le monde politique ne comprend pas les impératifs du monde enseignant où le contexte a très très fort changé. Moi, je remonterais en tout cas à 12-13 ans. Je pense que la séquence actuelle puise ses racines dans cette période. 12-13 ans, c'est l'époque 2013 où on lance le pacte, 2013-2014, où on lance le pacte d'excellence pour un enseignement d'excellence. On a voulu mettre autour de la table à l'époque les associations de parents, mais surtout les syndicats, les enseignants, les fédérations de pouvoirs organisateurs pour leur proposer un grand accord quelque part pour permettre de redresser un peu la barre de cette école qui coûte beaucoup d'argent mais qui ne porte pas toujours les résultats escomptés. On a lancé cette histoire qui a bien fonctionné pendant quelques années, mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait déjà un gap entre la manière dont le monde syndical portait les revendications et la conscience du terrain et ce qui se passait réellement sur le terrain. On a l'impression que dans les premières années du pacte, le monde syndical et le monde des pouvoirs organisateurs et du monde politique parlaient le même langage, mais ils ne parlaient pas déjà le même langage que le monde du terrain. Mmh. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à s'effriter et ça s'est aggravé au fil des années. Regardez la période Caroline Désir, le dernier gouvernement, ça n'a pas du tout été un fleuve tranquille du tout pour elle. Elle a pris une série de manifestations dans la figure, à commencer par son syndicat frère qui était la CGSP. Madame Glatigny en rajoute une fameuse couche ici de toutes ces économies et tout ça fait qu'on est dans un contexte tout à fait explosif. En fait.
Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui me frappait, moi, dans les rencontres qu'on a pu avoir avec les enseignants, mais quand on parle avec des enseignants hein, de manière générale, c'est de voir que sur le pacte d'excellence, même si, en général, ils disent en partager les intentions hein, d'un enseignement plus égalitaire, d'un enseignement qui produirait de meilleurs résultats par rapport aux moyens qui sont investis, sur les modalités sur la façon dont tout ça se construit, s'accompagne, les formations, etc. Il y a beaucoup de méfiance, en fait, dans le monde enseignant sur ce pacte d'excellence. Beaucoup de profs qui ont l'impression, malgré que les syndicats étaient censés les représenter à la table, beaucoup de profs qui ont l'impression que ce pacte s'est un peu construit sans eux, sans suffisamment tenir compte de leur réalité de terrain.
Ça me paraît évident. Le pacte, si mes souvenirs sont bons, il a commencé avec quelques consultations larges du terrain, et puis ça s'est très vite estompé, et il s'est résumé à des grandes discussions entre syndicats, pouvoir organisateur et monde politique, ou en tout cas l'administration. Et puis on a vu très vite cette distance se prendre entre le terrain et les gens qui discutaient autour de la table. Le terrain ne faisant qu'une chose, c'est de prendre dans la figure toutes les mesures qui se mettaient l'une derrière l'autre, qui se sont très vite accumulées. Tous les six mois, il y avait des nouvelles mesures qui se mettaient sur la table et qui ont fait qu'à un moment donné, le monde enseignant a très vite fatigué, en fait.
Mmh, très vite fatigué, avec en plus les phénomènes dont parlait Bertrand Haine, d'une charge qui parfois vient d'en dehors de l'école et qui n'a rien à voir avec les réformes, mais que les profs reçoivent et doivent porter, doivent accompagner avec leurs élèves dans les classes. Donc ça, ce sont des éléments déjà du cocktail de départ. Je voudrais revenir alors sur un point en particulier, le fait que dans ce mouvement-ci, on a vu les syndicats parfois un peu dépassés. On a vu que le mouvement est parti de manière un peu organique, de la base, parfois de certaines écoles, sans qu'il y ait toujours des mots d'ordre très clairs. Et puis d'un mouvement en particulier qui s'est organisé, le mouvement Mars Attaque. Et on va prendre le temps de s'y intéresser quelques instants avec Sarah Pousset.
Décembre 1996, Tim Burton sort le film Mars Attack, une parodie des films de science-fiction des années 50. Mars 2026, un groupe d'enseignants crée un mouvement du même nom pour dénoncer des mesures qui viennent d'une autre planète qui ne colle pas à la réalité. Et ils adoptent rapidement les codes du film, les profs portent des masques de martiens et organisent des rencontres du troisième type.
Martiens, martiennes, terriens, terriennes, enfants, grands-parents, voisins, voisins de voisins, gens qui passaient par là par hasard. On veut du monde.
Regardez nos classes, le froid dans les murs, on bricole l'avenir, on part au plus dur.
En seulement 3 mois, le mouvement Mars Attack a rassemblé plus de 300 écoles à Bruxelles et en Wallonie, tout réseau confondu. En plus des enseignants, on y retrouve des directions d'école, des parents, mais aussi de nombreux élèves, galvanisés par un hymne commun.
Mars Attack, on lance l'alerte, l'école est en feu, la porte est ouverte, on n'est pas vos pions.
Ce collectif se dit apolitique et ne veut pas se substituer aux syndicats. L'idée est plutôt de faire front ensemble, mais différemment, et d'organiser un tas d'actions symboliques. Par exemple, éteindre les lumières des écoles pour annoncer les heures sombres à venir, boycotter 10% de la charge horaire, ne plus communiquer les résultats des CESS ou des CE1D à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Une école a, elle, organisé une rencontre avec des parents dans un décor martien. Une autre, à Verviers, a initié le parcours du groupe de Facteurs à vélo, un groupe d'enseignants et d'élèves qui a parcouru les écoles wallonnes à vélo pour récolter des milliers de lettres de réclamation qui ont ensuite été apportées à la ministre Glatini à Bruxelles. Mars Attack milite pour le retrait total de toutes les réformes menées par la ministre Glatini et promet des actions au finish, peu importe le vote du décret programme en séance plénière.
Le mouvement ne fait que grossir, le mouvement Mars Attack, mais également le mouvement Parents Attack et Students Attack ne fait que grossir. Chaque semaine, ce sont de nombreuses écoles, ASBL, parents, étudiants qui rejoignent le mouvement, qui se mobilisent avec nous. Mais le mouvement continuera de grossir après le vote, après les vacances scolaires. C'est certain qu'on ne lâchera rien et que le mouvement continuera de grossir.
Voilà pour ce mouvement Mars Attack. Ça change la donne, ça, Bertrand Haine. On a quelque chose de différent par rapport à, par exemple, 1996, où là, il y avait quand même une forme d'organisation syndicale. Ici, on voit parfois que les syndicats sont un peu dépassés. On voit aussi beaucoup d'enseignants, et ça, on en a entendu, qui disent « Moi, j'avais jamais fait grève, je ne suis pas syndiqué », et pourtant, ici, qui se lancent dans la mobilisation.
Oui, c'est évident que c'est une grosse différence avec 1996, où à l'époque, la grève s'arrête en mai-juin. On est vraiment pile 30 ans en arrière, au même moment, et où les syndicats, à l'intérieur des syndicats, là, se fait un débat, est-ce qu'on doit faire les examens, pas les examens, et là, les syndicats mettent un peu le holà quand même. Ils disent, on recommencera en septembre, ce qu'ils n'ont jamais fait, mais ils disent, si le message à la société, c'est, on se bat pour l'école, qui est centrale dans la société, pour les élèves, mais qu'on ne fait pas passer les examens, et donc qu'on met en difficulté les élèves, plus personne ne va rien comprendre. Et donc ça, c'est une discussion qui se passe à l'intérieur des deux grands piliers syndicaux, CGSP et CSC Enseignement, et qui met fin au mouvement, et d'ailleurs, définitivement. Alors ici, c'est vrai qu'il y a Mars Attack, c'est lié certainement au pacte d'excellence, où les syndicats ont beaucoup collaboré avec les autres acteurs de l'école. C'est lié sans doute aussi à une évolution de la société. Hein. On voit bien que dans d'autres secteurs également, les syndicats ont de plus en plus de difficultés à politiser le ressentiment, à politiser la colère sociale qui peut monter ça et là dans différents secteurs. L'enseignement n'est pas épargné. Et puis il y a un dernier élément, moi, qui me marque, plus que dans les grèves des années 90, qui sont vraiment les dernières grandes, c'est que cette année-ci, les grèves sont plus marquées dans l'enseignement catholique, même si on a aussi dans l'enseignement public, bien sûr, mais c'est là où il y a le plus, et avec de nombreuses écoles où les directions d'école se mobilisent avec les enseignants et certains élèves. J'ai reçu des lettres, enfin, j'ai vu des lettres circuler qu'on m'a envoyées, où les directions d'école appellent vraiment au mouvement les parents, les élèves, pour rejoindre les enseignants. Et ça, c'est quand même des choses qu'on voyait moins dans les années 90. Et donc, c'est plutôt qu'un mouvement des enseignants contre Valérie Glatini, je dirais bien que c'est de plus en plus un mouvement des écoles contre Valérie Glatini, contre le gouvernement hein, aussi, parce que les engagés sont très fort visé à travers toutes les critiques aussi.
Parfois des mobilisations même très fortes des élèves qui poussent même les écoles à devoir prendre des mesures sur des annulations d'examens parce que les élèves eux-mêmes ne rentrent plus. Hein. On sent que le mouvement n'est pas vraiment effectivement encadré, qu'il dépasse certains de ceux qui voudraient pouvoir l'encadrer. Éric Burgrave, alors pour terminer sur cet enjeu de la description du mouvement qui se joue là, l'impression que l'on a aussi, c'est que Valéry Glatigny est assez isolé, Valéry Glatigny et le gouvernement, par rapport aux acteurs de l'école. Ici, on a l'impression que, à la fois, les directions, Bertrand elle le disait, les profs, les élèves, mais même les pouvoirs organisateurs se sont coalisés, ou en tout cas ont envoyé des signaux assez coordonnés, et que la ministre se retrouve un peu isolée. Certains lui reprochent un manque d'écoute vis-à-vis des acteurs du secteur. Est-ce que c'est une impression que vous avez, vous, en tant que journaliste ?
D'abord, si je reviens un second sur Mars Attaque, c'est un peu la surprise de cette séquence. Je ne sais pas si on a parlé de bonne ou de mauvaise surprise. En tout cas, c'est la surprise de cette séquence. Le monde syndical ne l'a pas vu venir. Et aujourd'hui, dans une situation où, je ne vais pas dire qu'il essaie de récupérer, mais en tout cas de faire avec ce mouvement qui est important et qui se cristallise en ce moment même dans les rues de Bruxelles. À l'heure où on parle, les autopompes ont été déployées, les chevaux de frise sont là, il y a des policiers avec des matraques. Et on a vu arriver ce matin, non pas des chasubles vertes, rouges et bleues, en tout cas pas beaucoup, mais énormément de gens en civil, c'est-à-dire des profs, des étudiants, des élèves qui débarquaient de partout. Le journal Le Soir est vraiment dans la zone neutre de
Rue Royale. Rue Royale. C'est tout près du Parlement de la Fédération.
On les a vus arriver vraiment de partout. C'était assez impressionnant vers 10-11 heures du matin. Et ça a très vite tourné au conflit. Donc vraiment, ce mouvement, c'est la surprise. Et c'est la démonstration que Mars est une planète. On est sur une autre planète. En fait, il y a la planète école, il y a la planète politique, il y a la planète syndicale et il y a la planète du terrain, en fait.
Donc ça, c'est l'illustration quelque part de ce qu'on disait là. Sur le côté un peu isolé de la ministre, et en même temps de voir que dans la mobilisation ici, on n'a pas seulement eu les profs, on a eu les pouvoirs organisateurs, les directions. C'est un peu inédit ça quand même de voir une telle mobilisation contre
cette réforme. C'est tout à fait inédit en fait. Ce qui est inédit, c'est surtout de voir monter au créneau les PO, les pouvoirs organisateurs, donc principalement le CEGEC, mais aussi le CP11 et le CECP qui représente l'enseignement officiel subventionné, mais également dans une moindre mesure au EBE qui est plus embêté puisque c'est le lancement officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On les a vus monter au créneau, c'est inédit parce que généralement ces mouvements, ces fédérations sont plutôt du côté du pouvoir.
En tout cas, plus conciliatrice.
Plus conciliatrice que syndicaliste. Et on les a vus main dans la main revendiquer une série de choses. On a entendu Alexandre Laudet au CEGEC critiquer vertement la ministre Glatigny. Ce n'est pas les habitudes de ce mouvement, en fait.
Je ne sais pas si la ministre avait gardé beaucoup de liens avec les syndicats et les pouvoirs organisateurs si on n'aurait pas eu quand même une mobilisation du terrain. Donc je ne veux pas surreprésenter le rôle encore des organisations sociales dans cette affaire, mais c'est évident que, par exemple, le fait de mettre fin au comité de pilotage du pacte d'excellence qui existait pour préférer directement des rencontres de terrain avec les acteurs. Ce que je disais tout à l'heure, il faut aller voir le terrain. Elle le fait, mais en fait, on voit bien que ça ne marche pas et que toutes ces instances intermédiaires, elles se sont mises de côté, notamment le CEGEC. Alors ça, moi, ça m'a beaucoup étonné comme observateur politique, parce que ce qui m'avait marqué pendant la campagne de 2024, c'est un peu le rapprochement, c'est un grand mot, mais en tout cas les affinités entre le MR, les engagés et le CEGEC à travers toute une série de thèmes, notamment certaines modifications du pacte d'excellence, etc. Et puis là, à mon grand étonnement, et quand c'est vrai, le patron du CEGEC prend la parole aujourd'hui, il le dit publiquement, les liens sont coupés, pas surtout, il y a des réformes, par exemple le CDI enseignant sur lesquels ils espèrent encore parler, mais les réformes actuelles, c'est vrai que le lien est coupé. Et ça, c'est très particulier de la part du ministre de l'Enseignement, qui avait l'occasion d'avoir quand même quelques alliés, pas tous, c'est sûr qu'il n'allait pas avoir la CGSP comme allié, je suis conscient de ça. Mais enfin, quelques alliés dans les acteurs de l'école, et de s'être coupé à ce point-là. Ça, c'est étonnant, et c'est sans doute une explication du front un peu uni, commun, et même débordant les syndicats qu'on voit aujourd'hui.
Alors, si on en vient un peu maintenant au contenu, Éric Burgrave, là où on avait aussi l'impression d'avoir deux discours sur une même réalité, mais deux discours très différents, c'est notamment aussi dans les conséquences de cette fameuse réforme qui va imposer aux profs du secondaire supérieur de pratiquer deux heures de période en plus devant leur classe. Certains estiment dans l'école que ça va être un chaos organisationnel, que beaucoup de jeunes enseignants vont perdre leur leur emploi, vont devoir aller bricoler des horaires, voire vont peut-être même quitter le métier tellement ça va devenir compliqué. Et quand on entendait la ministre dans notre troisième épisode, elle disait mais non, il va y avoir tellement de places disponibles par la pénurie, par le fait aussi qu'on ne va pas avoir de nouveaux entrants puisqu'on est en train d'allonger la formation initiale des enseignants du cycle inférieur. Mais en fait, il va y avoir pas mal de places disponibles et les choses vont se résorber en quelques mois. Il va y avoir de l'emploi pour tout le monde. Vous, quelle est votre lecture de cet enjeu-là en particulier ?
Mais ma lecture, c'est que si on prend les choses de manière tout à fait théorique, faisons un peu de mathématiques, chaque année, 2170 équivalents temps plein quittent l'enseignement, en tout cas dans ces écoles secondaires. La ministre estime qu'on va perdre 1300 emplois avec la fameuse mesure. Si vous faites la différence, ça fait 870. Donc, globalement, sur papier, on est bon, il ne devrait pas y avoir de soucis. Qu'est-ce qu'on fait ? On croise les doigts et on se dit on attend de voir la rentrée. Je crois qu'il faut aller un peu de l'avant avec ce problème.
D'autant plus que quand on parle avec les acteurs, ils disent oui, c'est vrai que sur l'échelle globale du territoire, l'équation tient, mais à l'échelle d'un pouvoir organisateur, même d'une région, c'est pas parce qu'il y a des heures de maths qui se libèrent que ce sera forcément un prof de maths qui va chercher, inversement.
Exactement, voilà. C'est pas parce qu'il y a deux heures qui se libèrent dans une école qu'il y a deux heures qui s'ouvrent dans l'école voisine ou à 3 kilomètres à côté. Donc en fait, la ministre parle de perte de charges et de perte d'emploi de manière tout à fait théorique, il semble qu'il n'y aura pas de perte d'emploi. De manière tout à fait pragmatique, je pense qu'il y aura effectivement des pertes de charges. Deux heures perdues dans une école ne suppose pas qu'on aura deux heures du même cours dans l'école voisine, qui a peut-être, elle, deux heures de maths plutôt que deux heures de français à offrir. En fait, c'est ça qui est vraiment compliqué et qui fait le gap entre la théorie et la pratique. Un simple exemple, on avait dans ce soir, ces jours-ci, le témoignage d'une prof de secondaire qui enseigne à Neuchâtel, mais qui est nommée à Bruxelles. Elle risque de perdre ses heures à Neuchâtel, où elle vit, et va devoir, pour récupérer ses heures, aller retravailler dans l'école où elle est nommée à Bruxelles, ce qui est pratiquement juste impossible à gérer. Et des cas comme ça, il y en a des dizaines, en fait.
Mmh. Un petit mot quand même, alors, Bertrand Hine, sur un autre argument qu'on entendait beaucoup du côté des profs, c'est de dire, oui, mais c'est tellement important, l'école, dans notre société, qu'on ne peut pas faire des économies. Et si la Fédération Wallonie-Bruxelles est en difficulté, eh bien, alors, elle doit aller frapper à la porte des régions bruxelloises et wallonnes, parce que c'est un enjeu de société majeur, c'est l'avenir pour nous, le fait d'avoir une école de qualité, ou bien refinancer l'enseignement au niveau du fédéral, renégocier la clé de financement. Est-ce que ce sont des hypothèses possibles, ça, politiquement, dans l'état actuel de la maison Belgique ?
Ben c'est vrai que c'est comme ça qu'on s'en était plus ou moins sorti à la fin des années 90, avec un financement de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins probable, mais de toute façon, cette idée-là me semble problématique. Elle me semble problématique parce que c'est vrai que l'école est centrale dans un projet de société, c'est indubitable. Mais ça n'empêche qu'il y a des réformes que nous aurions dû faire depuis au moins 30 ou 40 ans, qui auraient peut-être permis d'éviter ces économies immédiates, que sont en fait les mesures qui sont prises aujourd'hui, pour des mesures qui sont plutôt des mesures de moyen et de long terme. Par exemple, la rationalisation des réseaux. Ben, vous savez, c'est un débat, c'est comme le RER, quoi. On en parle depuis 30 ans et ça n'aboutit pas. En Flandre, ils l'ont fait, ils ont des réseaux plus concentrés que chez nous pour d'autres raisons. Mais enfin, il y a aussi eu des réformes de rationalisation, ne fût-ce que la région flamande et la communauté française ensemble, qui ont permis et qui permettent aujourd'hui à l'enseignement flamand, alors que il est à peu près financé de la même manière que le nôtre, de moins connaître ses problèmes budgétaires et de moins connaître ses problèmes de réformes permanentes et d'économies que l'on fait de manière un peu subite. Et donc ça, c'est un problème. Et c'est des réformes qui sont souvent, au moment où on les évoque, bloquées à différents niveaux d'acteurs de l'école qui aujourd'hui sont dans la rue pour dire, et ils sont légitimes pour le dire, que les économies leur font trop mal. Mais je pense qu'il y a quand même une réflexion sur la difficulté qu'a la communauté française de mener des réformes de long terme. Il y avait un professeur, il s'appelait Robert Deschamps, à l'université de Namur, qui dès les années 90 disait « ça ne va pas, nous avons des structures qui coûtent trop cher et le déficit ne va faire que s'aggraver ». Et il le disait déjà avant le refinancement en disant « même si on a un refinancement, si on ne change pas ça, on aura de nouveau des problèmes et on y est de nouveau ». Et ça, ce sont des choses qui sont difficiles à entendre du côté des enseignants. Par ailleurs, je ne lis pas leur malaise sur le terrain, mais dire simplement « il ne faut pas toucher à l'enseignement » parce que c'est central, c'est un peu court. Moi, j'aurais un peu le discours inverse. Il faut y toucher, mais sur le long terme, pour le rendre vraiment viable, plutôt d'être comme aujourd'hui, en fait, sur le court terme, avec des économies qui font mal et qui passent mal chez les acteurs de l'enseignement.
Un petit mot alors avec vous encore, Éric Burgraff. Est-ce qu'avant cela, avant ce grand chantier de long terme dont nous parle Bertrand Haine et qui semble indispensable pour notre enseignement, il n'y a pas un enjeu de reconstruire de la confiance? Parce qu'on a l'impression là qu'on est à un niveau de méfiance qui rend extrêmement compliqué de pouvoir se poser, se mettre à table pour réfléchir notamment à des réformes de structure de notre enseignement.
C'est clair qu'on ne pourra pas sortir de cette séquence sans reconstruire de la confiance. C'est peut-être c'est le mot que j'ai utilisé il n'y a pas très très longtemps dans un éditorial sur cette questions. Par contre, ça va être très, très, très compliqué quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, reconstruire la confiance sur ces bases-là. Je crois que dans l'actuelle législature, ce sera très difficile à mettre en œuvre. Ou alors, il faudrait vraiment que chacun change son fusil d'épaule pour y arriver et change son filtre, ses paradigmes, en fait.
Oui, et changer de paradigme, ça, c'est évidemment quelque chose de compliqué, Bertrand Haine.
Oui, mais, et pour tout le monde, je pense que du côté du gouvernement, il faut sortir de cette idée qu'il faut décider, on a été élu pour ça, et c'est vrai que la victoire était importante, désengagée du MR. Donc voilà, le terrain n'a qu'à suivre, c'est quand même une posture dont on voit aujourd'hui toutes les limites. Mais je pense qu'il faut aussi sortir de la posture oppositionnelle qui est celle aujourd'hui notamment des partis d'opposition, ce qui est un peu normal, mais même de certains acteurs de l'école, et arriver avec des solutions alternatives. Moi j'en entends assez peu, c'est vrai que dans les années 90 il y avait le refinancement. Aujourd'hui, c'est quand même difficile d'aller expliquer qu'il va falloir négocier avec la NVA un refinancement. Je pense que tout le monde comprend que politiquement, c'est compliqué. C'est déjà peut-être un autre projet que de demander aux partis francophones de se mettre d'accord pour fusionner ou en tout cas rationaliser Communauté française et régions bruxelloises et wallonnes. Mais ce serait aussi intéressant de dire, mais tiens, voilà, qu'est-ce que nous voulons sur base d'une enveloppe qui est celle-là, qu'on ne pourra pas tellement agrandir, comme type d'enseignement et comme organisation? Qu'est-ce que nous accepterions? Parce que dire que l'école ne doit rien faire, ça veut dire que c'est le reste, les 20% du reste du budget de la communauté française qui n'est pas consacré à l'enseignement qui va devoir faire tous les efforts. Les théâtres, l'enfance, la culture. Est-ce que c'est imaginable? Non, c'est pas non plus audible, surtout que tous ces secteurs sont déjà soumis à des économies. Et ça, ça manque un peu, je trouve, pour aller vers l'avenir, quand on construit un mouvement social qui a des bases légitimes, que je ne conteste pas en tant que journaliste, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table de constructif? Et jusqu'ici, j'entends peu ça aussi du côté des acteurs sociaux, mais pas non plus de la part du gouvernement, il faut le dire.
Voilà donc qui vient boucler la boucle de notre série consacrée à la colère actuelle dans les écoles, série dans laquelle on a justement essayé de prendre la mesure des racines du malaise qui dépasse les seules mesures annoncées par la coalition actuelle et maires engagés. Merci en tout cas à tous ceux et à toutes celles qui ont nourri notre compréhension ces derniers jours, que ce soit par leurs interventions sur antenne, mais aussi par les nombreux messages, par les nombreuses contributions que nous avons reçues. Merci à Valentine Gourdange pour la réalisation sonore de cette émission. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Et si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse lesclés@rtbf.be. N'hésitez pas bien sûr à faire connaître nos contenus autour de vous.